Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous et bienvenue dans une semaine sportmédable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Une semaine consacrée aux Jeux Olympiques, cette semaine de Paris. Pour m'accompagner ce soir, Diane Budulier, Olivia Vaitanaki, Jérôme Krapaty et Pierre-Jean Lung. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Au sommaire ce soir, donc, du rugby à 7, du handball, de la natation et du judo, avec les premières médailles françaises. Après la pause, nous débattrons de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques et nous terminerons par vos coups de cœur. On va commencer par le rugby à 7, même si ce n'était pas la première médaille française dans l'ordre chronologique. C'est la première médaille d'or française. Donc Jérôme Krapaty, est-ce que vous pouvez nous faire un petit débriefing sur cette belle médaille d'or des garçons au rugby à 7?
Oui, une magnifique médaille, une incroyable saison de l'équipe de France à 7, puisqu'elle n'était pas représentée donc en 2021, et elle a fini septième en 2016 à Rio. Et donc là, après une incroyable saison sur le Rugby 7 Tour, eh bien, sur le World Series, elle avait fait médaille d'or au niveau de Los Angeles, mais également de Madrid. Et elle est montée en puissance. Donc là, finalement, elle a confirmé toute cette préparation qui a été mise en place par Jérôme Daré et son staff avec une magnifique médaille d'or.
On a assisté à un beau tournoi, ils ont perdu un match de poule contre Fidji, qu'ils ont retrouvé en finale. On a quand même le sentiment qu'ils ont maîtrisé leur sujet et qu'ils étaient en mission presque. Ils avaient vraiment, comme beaucoup d'athlètes cette année, mais comme objectif d'être là ce jour J pour cette finale.
Oui, complètement. C'est vrai qu'il faut match nul tout d'abord contre les États-Unis. Ensuite, il faut un match assez timide et assez donc médiocre contre les Uruguayens. Ils le perdent contre les Fidjiens, mais ils montent en puissance dans ce troisième match. Et ensuite, ils se révèlent en quart de finale avec notamment des essais de bonne facture et surtout une conservation du ballon qui a été importante. Et donc, ils ont privé les Sud-Africains fait basculer le match en deuxième mi-temps. Pour ensuite battre l'Argentine également en quart de finale et bien sûr le titre suprême donc contre Fidji.
On est obligé d'en parler. Antoine Dupont, c'est quand même le facteur X de cette équipe de France. On ne sait pas ce qui serait advenu s'il n'avait pas été là, mais on a bien vu qu'il a été très décisif sur la demi-finale contre les Sud-Africains et contre Fidji en finale aussi.
Alors effectivement, ce joueur, il apporte un plus à l'équipe de France, mais l'équipe de France à 7, c'est avant tout un collectif de 14 joueurs qui se préparent depuis de nombreuses années. Et ce collectif-là, il est composé donc d'individualités, dont effectivement Antoine Dupont, mais c'est surtout un sport collectif et ils jouent ensemble. Et lui, c'est vrai que c'est un joueur assez exceptionnel qui apporte un plus puisque Jérôme Daré, le coach, le fait rentrer en deuxième mi-temps. Et à chaque fois, donc, il apporte une plus-value de par toutes ses qualités physiques et par rapport à sa vision du jeu. Mais il faut quand même reconnaître que cet esprit de groupe France 7, il est très important. D'ailleurs, le slogan dit 7 ensemble, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait aussi bien comme dans le 15, d'un travail de collaboration, d'un travail de cohésion. Et Antoine Dupont, eh bien, il ne fait qu'apporter un plus avec beaucoup d'humilité. Effectivement, les médias sont focus sur lui, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est tout le travail qui a été fait en amont de ces Jeux depuis de nombreuses années.
Diane Budulier, vous avez suivi le rugby à 7?
En effet, c'était une des compétitions qui était relevée, parce qu'on connaît l'équipe de Fidji dans le Nord Pacifique qui est champion olympique en titre. Hein. Donc on a pu suivre la préparation de cette équipe de France rugby à 7. Et comme disait Jérôme Krapaty, c'est qu'au-delà de la performance, il y a une vraie cohésion d'équipe. Alors oui, on a une individualité qui ressort et qui marque les esprits. Néanmoins, on a pu voir cette osmose au sein de toute cette équipe. Et passer, on parlait d'Antoine Dupont, passer du 15 au 7, ce qui est, contrairement, c'est quand même compliqué. Il arrive à le faire et on le voit sur le retour de la médaille. cette cohésion avec, avec des coéquipiers dont, dont on apprend à connaître et aujourd'hui qui arrivent à une performance de niveau international. Donc ça, c'est quelque chose qui est remarquable, je pense, pour l'équipe de France. Et il le disait, ça permet aussi d'ouvrir le rugby sous un autre œil, parce que le 7 n'est pas forcément bien connu. En revanche, il est abordable par, pour le grand public, tout à fait.
Pierre-Jean Loung, il y a un apport qui a été indéniable dans ce, dans ce, dans, dans ce rugby à 7, c'est le Stade de France et ses 70 000 personnes.
Oui, oui. Moi, je pense que là, on discute un peu de l'apport qu'a pu avoir Antoine Dupont par rapport à l'équipe. Et il a raison, Jérôme, par rapport au collectif. Hein. C'est clair que c'est tout d'abord un collectif, hein, le rugby. Hein. C'est... Même s'il a pu on va dire, galvaniser, gérer cette équipe de France, je pense qu'on en parlait juste avant. Là, c'est, il, a quand même, il y a eu une ambition quand même qui a été posée par l'équipe de France, le staff, sur la performance sur ces Jeux Olympiques. Moi, je trouve qu'il ne faut pas surtout oublier, au-delà de tout ce qu'on parle, gérer ce Stade de France, là, sans je ne sais plus combien de spectateurs.
70 000
spectateurs. Mmh. C'est clair qu'ils ne sont pas habitués peut-être à jouer. Et il ne faut pas oublier que c'est l'esprit des Jeux Olympiques. On a quand même ici des athlètes comme Diane, peut-être aussi, qui peut aussi parler de ça. Mais on sait que là, on est sur une autre dimension. Quoi. C'est une équipe qui se présente devant un public. Et c'est, il ne faut pas oublier que le public aussi a eu, je dirais, une belle part aussi.
Hein. Ah ben le, je pense que le public a sa part dans cette médaille-là. Jérôme Crapaty, quel avenir pour cette équipe de France de rugby à 7 ?
Un très très bel avenir avec donc un staff où le coach va certes terminer mais il va sans doute être remplacé, mais surtout donc une équipe de France qui est devenue très populaire. Le 7 gagne à être connu et il est spectaculaire. C'est un jeu très aéré où on voit systématiquement de belles envolées mais aussi le jeu de mouvement, et on se rend compte que ce rugby à 7, eh ben il peut être il est aussi très développé dans le Pacifique, mais il peut aussi être développé dans les écoles de rugby, il peut être développé aussi de façon pour le plus grand nombre, et ça me paraît important parce que finalement les Jeux Olympiques c'est aussi le rassemblement de plusieurs sports, mais c'est aussi la capacité à faire la promotion de nouvelles activités. Et c'est vrai que le 7 n'était pas présent avant et ben, il a remporté un franc succès, et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est de dire que finalement ben, c'était la fête dans les tribunes, c'était la fête du jeu pendant le match, mais c'était aussi la fête après le match, et avec une belle envie de vouloir fêter ce titre-là, notamment au niveau du Club France, en essayant également donc de montrer toutes les valeurs de ce sport en collaboration avec les autres disciplines.
Alors effectivement, on a vu des images très festives au Club France avec les rugbyman. C'est aussi, Diane Bidieu, très important, je pense, parce que la première médaille d'or qui arrive pour la délégation entraîne tous les autres, ça dynamise tout le monde, ça galvanise tout le monde, j'imagine.
C'est ce qui donne le tempo. Et c'est vrai qu'on a un sport d'équipe, on a une vraie emblématique du sport rugby français. Et cette médaille d'or entraîne, et je pense que les autres disciplines ont envie de faire... pareil, voire mieux, évidemment, avec plusieurs athlètes. Donc oui, je pense que c'est déjà une entrée en matière pour ces Jeux Olympiques pour la France, très bien réussie.
Alors Jérôme Crapaty, cette médaille d'or des garçons, elle va galvaniser au premier titre les filles, puisque les filles ont enchaîné dès le lendemain avec l'équipe de Yolaine Lengo, avec deux victoires sur le Brésil et le Japon, sans prendre de points. Un dernier match à jouer demain matin, je crois, de poule, avant les quarts de finale. Comment ça s'annonce pour les filles ?
Mais moi, je pense que ça s'annonce bien parce que elles avaient fait donc troisième au niveau des Jeux de Rio en 2016 et médaille d'argent en 2021 pour les Jeux de Tokyo. Et cette année, elles ont fait une très bonne saison sur le circuit mondial. Et là aussi, elles montent en puissance avec leur coach David Courtex et avec une Yolaine Yengo qui est au milieu d'un collectif assez impressionnant. Alors, on le sait, il va falloir, bien entendu, elles vont sortir des poules. Donc, elles risquent de prendre soit la Chine ou le Canada. avoir. Et ensuite, eh bien, il va falloir donc se confronter obligatoirement pour gagner contre les Néo-Zélandaises, qui, je le rappelle, ont gagné le circuit mondial cette année. Donc voilà, donc elles ont un très très bon niveau, elles sont en pleine cohésion, elles sont très fières des garçons qui leur ont montré la voie, elles vont donner le meilleur, mais c'est vrai que l'ogre néo-zélandais est assez impressionnant. Ces filles-là jouent un très très bon rugby, ont un rugby très physique. Il va falloir que l'équipe de France fasse preuve donc d'audace, mais aussi arrive à conserver le plus possible le ballon et peut-être avec des contres, peut-être marquer des essais. Voilà, je pense que si elles passent, donc elles vont jusqu'en finale, eh bien, il faudra vraiment battre les Néo-Zélandaises.
Ok, on suivra ça les jours qui arrivent, donc, puisque la finale est prévue jeudi matin, je crois. Donc on espère que l'équipe de France féminine sera en finale. On va enchaîner avec le rugby, puisqu'on n'a pas encore entendu Olivia Vaitanaki. Donc, avec le handball, pardon, excusez-moi. Olivia, c'était le début du tournoi de hand, donc aussi bien chez les garçons que chez les filles. C'est un peu des fortunes diverses pour l'instant. Les garçons ont perdu leur premier match ce matin contre le Danemark assez largement. Non, hier matin.
Hier matin,
et puis,
oui.
Et puis les filles ont bien démarré avec deux victoires, dont une ce matin contre les Pays-Bas, 32 à 28. Vous pouvez nous faire un petit état des lieux de ce début de tournoi ?
Bah écoutez, pour une fois, les garçons perdent en match de poule, alors que d'habitude, c'est les filles qui sont en difficulté sur les débuts de compétition, que ce soit les championnats du monde ou les Jeux Olympiques. Voilà, on a une équipe alors chez les filles qui est en forme, qui est assez jeune aussi. Il y a une belle mixité entre les anciennes et les nouvelles. Contrairement à l'équipe des garçons qui est peut-être un peu plus âgée, moyenne d'âge 30 ans, hein, deuxième équipe plus âgée sur le tournoi de handball. Moi je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter sur ce qui a été proposé sur Magic Garçon. C'est le Danemark. Le Danemark, c'est quand même une équipe très costaud qui fait partie du top mondial. C'est une affiche de finale de Jeux Olympiques. C'est vrai que bon, on sent que les Français ne sont pas encore prêts, ils sont toujours dans leur préparation et l'idée c'est d'être vraiment prêts sur les dernières phases, donc la dernière semaine. Donc voilà, il ne faut pas s'affoler. Il a tenté des choses sur le jeu à 7 contre 6, supériorité numérique, faire sortir le gardien, où voilà, on a été pris au piège. Mais je pense que c'est le moment, justement, sur la compétition, de tester le rendez-vous final, j'espère, en finale.
Voilà, donc les garçons jouent leur prochain match contre la Norvège. Ils ont quand même une poule où ils sont normalement... c'est assez accessible, on va dire. Il doit finir dans les 2-3 premiers.
Oui, voilà, l'idée, c'est de finir dans le haut de tableau. Et en faisant tourner les effectifs, là, ce matin, on voit bien que Vincent Gérard a fait une très belle partie. Derrière, il met quand même assez longtemps Rémi Desbonnets, qui fait, je crois, deux arrêts en 10 minutes de match. Bon, si on joue la gagne, c'est sûr, et qu'on est stressé, on change. Mais voilà, tout le monde a besoin de jouer, tout le monde a besoin de faire tourner. Et quand on sera en finale, ce sera complètement différent. L'idée, c'est de mettre tout le monde dans le coup et de pouvoir utiliser ces 14 joueurs sur la finale.
Bon, ils ont un héritage à faire vivre aussi, ces handballeurs. Hein. C'est aussi une pression, quelque part.
Bah, c'est une pression. Et puis, ça fait... ils ont 3 médailles olympiques. Ils remettent le titre en jeu. C'est la fin de carrière de Nicolas Karabatic. On est en France. Donc voilà, il y a toute cette pression à gérer. Je pense que c'est compliqué pour eux d'être... puis l'équipe, comme je vous ai dit, elle est vieillissante. Donc on ne gère pas de la même manière quand on a 40 ans et quand on en a 25. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Et je pense que là, aujourd'hui, ils ont décidé de mesurer les choses au fur et à mesure et de monter en puissance en fonction de la compétition.
Alors, et les filles, puisqu'elles ont bien démarré, elles s'annoncent aussi sur un groupe... normalement assez à leur portée, hein, puisqu'elles ont encore le Brésil, l'Angola et l'Espagne à jouer, donc elles devraient terminer première ou deuxième de leur poule et se faciliter le tableau final. Ça, c'est
exactement
normalement.
Alors moi, au début, je pensais plutôt que les garçons allaient être en confiance sur cette compétition, et en fait, ça s'est complètement inversé. Ces dernières années, l'équipe féminine a vraiment gagné en statut, en maturité, en confiance, et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont incontournables sur la scène internationale. Je pense qu'avec la compétition, le début de compétition qu'elles ont fait, elles ont bien montré qu'elles étaient prêtes. Et pour aller chercher le titre, je pense que tout est réuni justement pour aller jusqu'au bout.
Bon, Jérôme Crapati, vous avez suivi un peu ce début de tournoi de handball ?
Oui, toujours un grand plaisir à regarder ce sport collectif que je trouve assez formidable. Et comme le disait Olivia, qu'il y a une histoire dans les Jeux. Et c'est vrai qu'ils ont la pression parce que c'est vrai qu'ils sont, c'est une équipe de haute voltige avec de très bons entraîneurs, mais aussi de très bons joueurs. Et c'est vrai qu'on va leur faire confiance parce que je pense qu'ils peuvent faire de super résultats. Il faut savoir qu'une compétition comme les Jeux Olympiques, c'est plusieurs matchs. Donc il faut être bon jusqu'à la fin. Et je pense qu'ils ont une belle étoile et de belles énergies dans cette équipe-là, avec des joueurs plus jeunes et d'autres plus sur la fin. Mais moi, je pense que cette alchimie entre ces joueurs-là, avec différents âges, peut donner quelque chose de pas mal. Alors oui, l'ogre du Danemark était dur au départ, mais c'est peut-être un bon test pour ensuite peut-être travailler sur la suite du tournoi.
On peut peut-être y voir un pendant avec l'équipe de France de rugby à 7 qui joue les Fidji d'entrée et qui les rejoue en finale. Donc on peut peut-être espérer la même destinée pour notre équipe de garçons au hand.
Ils nous ont montré la voie.
Voilà, exactement.
On va suivre.
Pierre-Jean, vous avez suivi le handball ?
Très honnêtement, déjà, je passe mes soirées en ce moment à regarder le judo. Mais mais effectivement, moi, je suis d'accord, c'est des magnifiques équipes. Je pense que dans le sport co, tout à l'heure, je voulais juste réagir sur la symbolique, hein, sur l'équipe de France de rugby. Moi, ça me fait penser quand même qu'on sort quand même d'une Coupe du Monde. Il y a quand même une belle revanche derrière ça. Il faut aussi
le rugby à 15.
Ça, sur rugby à 15, c'est un pays qui s'est mobilisé. Et là, maintenant, on est sur les Jeux Olympiques sur Paris. Voilà, c'est fort, ça. C'est, voilà. Donc, je pense que, et du moins, j'espère que ça va enclencher des dynamiques collectives. Parce que c'est ça, hein, de manière à ce que derrière, que ce soit sur le handball, parce que le handball, on sait bien que c'est quand même une équipe qui nous a, on va dire, beaucoup, on va dire, fait vibrer. Les Barjots, les experts, ceci et cela. Donc voilà, il faut être patient. Je pense qu'il faut, il faut faire confiance au staff. Je pense que chacun, dans une préparation, un tournoi olympique, que ce soit dans le handball, il faut du temps. C'est que les débuts. Donc il faut attendre, je pense, sur ça.
Pour terminer notre partie handball, Olivia, vous pouvez nous donner un peu les favoris, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, au-delà de nos équipes de France ?
La Norvège, alors chez les filles, c'est plus la Norvège qui arrive avec, on a aussi les Pays-Bas et le Danemark, qui sont quand même des belles équipes. Le Brésil aussi fait une belle apparition. L'Espagne est un petit peu en dedans. Et puis chez les garçons, France, Danemark, la Norvège aussi, la Suède qui a fait une belle entrée. Donc surtout des pays scandinaves. On peut avoir une petite surprise avec l'Égypte, qui est aussi une belle équipe et que j'apprécie aussi beaucoup.
Bon, eh bien on refera un point la semaine prochaine sur la compétition de hand. On enchaîne avec le judo, et pour le coup, la première médaille dans l'ordre chronologique de l'équipe de France, c'était celle de Shirin Boukli, en bronze en moins de 48 kilos. Une très belle médaille, parce qu'elle a un combat difficile en demi-finale où elle se fait surprendre, et elle réagit extrêmement bien pour aller chercher cette médaille, Pierre-Jean.
Ah oui. De toute façon, Shrin, c'est une petite que, pour l'histoire, je l'ai connue en 2015. Elle était sur le pôle France de Marseille, où on envoyait aussi une partie de nos jeunes Calédoniens, à l'époque sur le pôle Espoir. Avec une petite pensée quand même au passage à notre petit jeune Calédonien, même s'il est resté sur le bord du tapis, mais quand même qui a œuvré. Le petit Mathieu, Alexis, qui d'ailleurs continue à être partenaire dans le cadre de ça. Pour revenir à Shrin, de toute façon, c'est simple, elle était opposée, je dirais, à la championne du monde en titre, donc la japonaise. Pour la petite histoire, elle a 31 ans, donc c'est quand même aussi un message fort dans le cadre, je dirais, d'une préparation sur la performance, parce qu'au judo, chaque discipline est différente, mais on sait bien que sur les sports de contact, plus on prend de l'âge, plus c'est compliqué. Voilà, donc elle a fait ce qu'elle a pu. De toute façon, elle a tout donné. Et ce qu'il faut retenir aussi, il faut voir aussi cette préparation, ces 4 ans de préparation. Elle sait bien qu'elle avait cette japonaise à prendre. Ça passe. Là, malheureusement, ça n'a pas passé. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est surtout comment elle a pu rebondir derrière pour aller chercher cette 3e place, aller chercher cette médaille, on sait tous, Un tournoi de judo olympique, ça démarre à 10h du matin, ils ont 2h de combat, et après ils ont 5h d'attente, et après ça s'enchaîne. Quoi. Voilà, donc c'est très très long, très très long, et ils ont à peu près entre 4 et 5 combats, donc si vous faites le cumul, ils passent en grand maximum 30 minutes sur un tatami, mais par contre c'est cette pression, c'est cette force mentale, Pour le judo français, on est content parce qu'elle a débloqué le compteur de médailles pour l'équipe de France, ça c'est clair, c'est la première médaille, on aurait tous souhaité bien entendu. Maintenant, elle est jeune, 24 ans, donc elle a encore le Los Angeles devant elle. Derrière, il y a quand même donc Luca Mezzé là qui confirme, même si donc il perd sur sa finale, mais quel beau palmarès hein. Il fait troisième donc à Tokyo. Il faut le rappeler quand même que Tokyo c'était une ambiance qui était totalement différente, personne dans les gradins, espace Covid, etc. Et voilà, donc ben, je pense qu'ils sont au rendez-vous, en tout cas. Hein, moi, je pense que déjà, ça fait deux jours hein, qu'on a démarré le judo.
C'est ça, la première journée a été très bien lancée, donc avec les deux médailles dès le premier jour. Donc, il manque toujours la médaille d'or, hein, puisque ce matin, Amandine Bouchard a pris le bronze en moins de 52. Mais voilà, c'était quand même déjà trois médailles pour le judo français.
Trois médailles, on aurait pu en faire quatre avec Walid. Hein, parce que, bon, pour revenir, s'il faut parler d'Amandine, elle a fait un tournoi assez compliqué, faut être honnête, hein. Elle est allée jusqu'au bout, hein. Comme on dit, elle a sorti les tripes un peu sur le tatami, parce que c'est des combats qui ont été durement gagnés. Donc voilà, une gestion mentale, quand on la connaît, Amandine, c'est quelqu'un qui est très émotive, hein. Elle est passée par un pan de carrière où c'était une athlète qui était en moins de 48 kilos, où à l'époque la fédération souhaitait qu'elle reste donc en moins de 48, ensuite elle a eu un passage assez compliqué psychologiquement. Les clubs ont fait un gros travail derrière elle et ensuite donc elle est re-rentrée sur une équipe de France en moins de 52. Voilà, donc c'est important parce qu'elle souligne quand même d'ailleurs toute l'abnégation hein, qu'elle a dû faire face. Voilà, donc moi je trouve que c'est une belle performance, au contraire. Médaillon olympique encore sur deux Olympiades. Donc effectivement, elle perd contre dans une catégorie où on aurait pu croire, très honnêtement, parce qu'il y avait on va dire, le spécimen mondial dans la catégorie des moins de 52, c'est Uta Abe, c'est la japonaise, qui perd au premier tour. Qui perd au premier tour, et là on se dit, waouh, ça y est, il y a un chemin qui va être ouvert à bubuche, comme on dit chez les judokas. Mais non, mais le judo c'est ça, c'est que chaque combat est un combat, il faut ressortir gagnant du combat, et effectivement, ils sont tous là pour la breloque, hein, il faut être honnête. Hein, voilà, donc elle perd contre l'ouzbek, la japonaise, alors que tout le monde disait, bon, bah, ça va être une formalité, sauf que la petite ouzbek, là, elle gagne les Jeux Olympiques, c'est elle qui gagne.
Elle va d'ailleurs, au bout.
Elle va au bout. Elle va au bout. Et pour revenir à Walid, qui était à Dignan en moins de 60... Voilà, donc il avait tout, là il était bien en ce qui concerne, je dirais, ses schémas tactiques, en ce qui concerne la pose sur les mains, sur le kimono et tout. Il perd sur sa demi-finale peut-être en étant peut-être trop présomptueux, hein, dans le sens où il restait peut-être 10 secondes, la gestion d'un combat, voilà, il le reconnaît lui-même, hein, c'est l'erreur qu'il fait, hein, c'est comme ça, mais voilà, on sait tous, hein, hein, dans un sport de combat, surtout au judo, ben, une seconde c'est fini, une seconde c'est bon, voilà, donc malheureusement, voilà, et ben, on peut que l'encourager à poursuivre, parce que c'est un beau combattant, Walid, hein, sur ça.
Olivia, Diane, deux médailles pour les filles, déjà au judo. Hein, on peut faire parler un petit peu la fibre féminine ce soir. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Bah, moi, j'ai trouvé que c'était assez remarquable, parce qu'au judo, ce qui est compliqué, c'est que vous perdez un combat. Du coup, vous n'êtes pas en finale, vous n'avez pas la médaille d'or ni la médaille d'argent. Et qu'il faut se remobiliser assez vite pour aller chercher la médaille de bronze.
C'est ça, ouais.
Et ça, c'est vraiment très difficile chez un sportif de haut niveau, c'est de se dire, bah voilà, la déception elle est là, mais pour aller chercher la médaille de bronze, ça va pas être facile. C'est que même si c'est la troisième place, celle qui est avec elle, elle est venue chercher une médaille, donc ça va être le combat. Et c'est vrai que moi, en entendant les interviews ce matin d'Amandine Bouchard, elle dit, bah voilà, d'entendre le public, elle s'est laissée porter, et c'est vrai que si ça avait été à Tokyo, je pense pas que ça aurait basculé en sa faveur. Et là, on voit la force du public français et puis la combativité des filles lors de la compétition, et ça, j'ai trouvé ça super.
Moi, je vais rebondir également sur ce côté un peu féminin. C'est les premiers Jeux olympiques où on a une parité homme-femme.
Comme dans ces studios ce soir.
Exactement, ou presque, mais c'est bien. c'est bien le noter. Mais c'est quelque chose qui est complètement aujourd'hui, j'allais dire, dans l'air du temps, mais qui n'est pas forcément une évidence. Donc c'est bien de le noter. Et oui, les femmes ont toute leur place sur les podiums, et elle le montre brillamment, parce qu'on arrive aujourd'hui à ouvrir les compteurs de l'équipe de France.
Alors, on n'a pas prévu ça au sujet ce soir, mais on a aussi Pauline Ferrand-Prévot, hein, qui fait médaille d'or en VTT. Hein,
oui,
on
ne
peut pas traiter toutes les disciplines, mais c'est bien de le signaler malgré tout. On va attaquer les poids un petit peu plus costauds à force au fur et à mesure de la semaine. On a les moins de 57 chez les femmes et les moins de 73 chez les hommes ce soir.
Ouais.
Et puis Teddy Riner, qu'on attend tous forcément le 3 août. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Pierre-Jean ? Quelles sont les chances françaises dans les catégories qui arrivent ces jours-ci ?
pour la Fédération française de judo, ce qui aide bien, c'est que en termes de parité, on privilégie la partie féminine. En fait, les ambitions pour la Fédération française de judo, c'est 10 médailles. Juste pour très rapidement, dans cette médaille, s'ils souhaitent, c'est une médaille dans chaque catégorie féminine.
Voilà,
c'est juste pour vous dire déjà le niveau qu'il y a chez les filles. C'est-à-dire que là, on a des tueuses à gages, elles sont prêtes, elles sont voilà. Donc là, pour l'instant, elles confirment, elles sont voilà. Chez les garçons, juste pour la petite histoire, ils souhaitent faire 2 médailles. Alors qu'il faut savoir qu'il y a 7 catégories chez les garçons. Depuis les Jeux de Sydney, on n'a jamais fait plus de 2 médailles chez les garçons.
Sachant qu'il y en a une pour Teddy Riner à chaque fois.
Donc c'est juste pour vous donner la dimension qu'il y a sur le niveau qu'il y a chez les garçons. En Tokyo 2020, Riner il fait 3. Hein. Il gagne pas. La seule médaillée or au judo, c'est Clarisse Agbenenou. Hein. Donc voilà. Donc là elles sont préparées. Je pense que il y a du potentiel chez les filles de faire quoi qu'il en soit une médaille. Maintenant on sait tous un tournoi olympique ce que ça peut faire. On a eu l'exemple avec Uta Abe, la championne, le spécimen des moins de 52 qui glisse et voilà, et qui perd. Donc, mais en tout cas, je pense que voilà, on aura, j'irai, des ambitions qui sont bien posées. Avec, aujourd'hui, on va passer sur une catégorie des moins de 73 kilos. Alors, chez les garçons, ben, ce petit bonheur, la chance, hein, il faut savoir qu'au judo, pour rentrer, on va dire, dans les différents tableaux, il y a des têtes de série, c'est-à-dire qu'ils s'évitent dans les premiers tours. Hein, voyez. Donc là, ben, chez les garçons, à part Teddy, il n'y a aucune tête de série. Donc là, ils vont prendre les plus gros, les plus forts. Donc, de toute façon, c'est comme ça. C'est des matchs à gagner. S'ils gagnent, ben, tant mieux. S'ils perdent, ben, va falloir aller chercher les repêchages. Quoi.
S'ils gagnent, ils ouvrent le tableau à Bubuche.
Et ils ouvrent le tableau à Bubuche.
c'est tout le mal qu'on va leur souhaiter pour les jours qui arrivent. On va s'orienter vers les bassins de natation pour terminer le tour d'horizon d'aujourd'hui. On va commencer par le sac de Léon Marchand ce matin qui était incroyable.
Il a
terminé avec tellement d'avance qu'on se demandait s'il n'était pas tout seul dans le bassin. C'était assez impressionnant. Diane.
Eh bien, nous avons en effet un Léon Marchand qui, on le dit, hein, stratosphérique. Il nous l'a prouvé, il est monté en puissance. C'est un jeune qui a fait les derniers Jeux olympiques à Tokyo en 2021. Il était bord de couloir. Après, avec un entraîneur dont on connaît le nom, Owen, qui a entraîné Michael Phelps. Et aujourd'hui, il est monté crescendo depuis 4-5 ans. Où vraiment on attendait, c'est vrai qu'on l'espérait, mais comme on le dit autour de cette table, la pression, il faut aussi la gérer. On est à la maison, on est à la Défense Arena, donc on a plus de 10 000 spectateurs qui nous encouragent. Alors c'est porteur, c'est vrai. Néanmoins, les médias on rajoute une couche quelque part parce qu'au final, on est attendu et c'est le favori. On est en France. Donc les championnats de France venaient de se dérouler 5 semaines avant. On l'avait senti pas complètement encore en phase dans sa préparation parce que c'était pas le bon moment et on le sentait confiant néanmoins pour ces JO et il nous l'a démontré ce matin en enlevant le dernier titre record du monde
olympique de Michael Phelps.
C'est exact. Donc un beau jeune homme. Dans le sens où même humainement, il a cette humilité que l'on peut aussi retrouver chez Antoine Dupont. Ça fait un petit parallèle parce que je trouve qu'il y a une certaine ressemblance en termes d'humain. Et c'est vrai qu'il est porteur dans cette équipe de France et je pense en effet que c'est quelqu'un qui est encore prometteur pour quelques années.
Jérôme Crapaty, vous avez regardé cette course incroyable de Léon Marchand ce matin ?
Oui, avec une grande attention et c'est vrai que je suis impressionné par rapport à notamment sa jeunesse et sa maturité, sa capacité justement à communiquer, à dire des mots justes, des mots simples et à rester concentré sur l'objectif de gagner. Et voilà, et je pense que c'est vraiment impressionnant. On discutait tout à l'heure hors antenne. Moi, je suis admiratif par rapport au fait qu'il y a des nageurs dans une journée. Il faut qu'ils fassent les séries, il faut qu'ils fassent les finales. Ils doivent rester concentrés avec une masse de courses importante à faire par jour. Et je trouve ça assez impressionnant de voir ces athlètes-là. Quoi.
Alors, on l'a senti à la sortie du bassin, heureux.
Mais pas complètement.
Mais presque déjà focus sur la prochaine compétition.
En effet, il a un programme qui est chargé. il s'est aligné, s'est qualifié en tous les cas sur le 400 mètres 4 nages, le 200 mètres 4 nages, de la brasse également. Et c'est vrai que dans un programme olympique, généralement, on fait une, deux courses pour, dans nos spécialités. Et là, il est tellement polyvalent qu'il va devoir, je pense, ou à réfléchir en tous les cas sur sa programmation de la semaine. Sinon, la semaine risque d'être longue, parce qu'autant le 400 mètres, on a la série le matin et la finale le soir. En revanche, sur les autres disciplines, on va avoir les demi-finales qui s'interfèrent. Donc ça veut dire nager trois fois à un niveau d'intensité quand même qui demande un certain emploiement de la personne. Ouais.
Bon, on va suivre les performances de Léo Marchand et de l'ensemble de l'équipe de France de natation. On va quand même dire un petit mot sur Emma Terebaud, dont la première course est ce soir à 20h.
Tout à fait. Donc on va retrouver nos Calédoniens. On a Emma Terebaud et Maxime Grousset. Emma sur le 100 mètres d'eau, donc ce sera les séries, tout en sachant que sa spécialité reste quand même le 200 mètres d'eau. Mais on a une Française, les Françaises d'eaucistes sont aujourd'hui d'un niveau assez extraordinaire, parce qu'on en avait toujours, mais pas à ce niveau-là en tous les cas. Et c'est vrai qu'on aura au cœur à la soutenir sur ce 100 mètres d'eau.
Et puis, vous l'avez dit, il y a celui qu'on attend tous aussi, c'est Maxime.
Et ça va être un peu le cas de Maxime, un peu comme Léon. Hein. C'est aujourd'hui, il est monté en puissance dans ses performances. Il est aujourd'hui attendu sur sa spécialité qui est le 100 mètres nage libre. Donc, on va avoir les séries du 100 mètres nage libre demain.
C'est ça, voilà. C'est ça. Avec une demi-finale à 5h30 du matin.
Alors, l'avantage qu'on a, avec le décalage horaire, parce qu'il faut aussi se caler, c'est qu'on est soit le matin entre 5h et 7h, 5h30, 7h, soit le soir entre 20h et 22h. Donc, on arrive quand même...
Sur la natation, c'est
à peu près jouable. Sur la natation, ça colle bien. Donc oui, on va avoir Maxime Grousset, ou pareil, hein, la gestion de la pression, la gestion de la course, des différents, parce qu'on a quand même une belle concurrence australienne... Alors, le chinois est arrivé, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, américaine. Donc, on va avoir du monde sur la ligne de départ qui, aujourd'hui, ça sera celui qui aura le plus envie et la hargne de vouloir gagner.
Et la meilleure gestion de sa journée sur, de l'ensemble de ces trois courses.
Oui, après, c'est des répétitions qu'ils ont l'habitude d'avoir aussi. Hein.
Oui, donc on suivra ça demain soir du coup, oui. pour la série, et puis mercredi matin
pour les demi-finales.
On a du mal avec les horaires. on va passer au débat, parce que ces Jeux Olympiques ont démarré avec une cérémonie d'ouverture hors norme qui n'avait jamais lieu en dehors d'un stade. Il y a eu beaucoup de commentaires de la presse nationale, de la presse internationale. Qu'en avez-vous pensé, vous ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette cérémonie d'ouverture qui a été très longue, avec beaucoup de tableaux, beaucoup de choses ? Il y avait énormément d'émotions aussi par moments. Olivia, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a déplu dans cette cérémonie d'ouverture ?
Moi, je dirais que dans l'ensemble, tout m'a plu. Bon, il y a forcément des petits moments un peu décalés. Voilà, je pense que ça, c'est propre à chacun. Mais moi, j'ai vraiment aimé tout ce qui a été montré pendant cette cérémonie, que ce soit le cavalier d'argent, ça, c'était top, la cantatrice, avec les monuments autour, c'était vraiment extraordinaire, le fait d'avoir les équipes qui arrivent sur des péniches. Enfin, d'avoir des jeux comme ça, après avoir vécu les Jeux de Tokyo, je pense que voilà, ça fait du bien à tout le monde, c'est une belle fête. Où tout le monde se réunit après 8 ans, parce que voilà, c'était fermé sur Tokyo. Donc moi, j'ai beaucoup aimé tous, hein, que ce soit Lady Gaga, même Aya Nakamura, qu'on pensait, voilà, tout le monde allait critiquer. Moi, j'ai trouvé que ce qu'elle a fait avec la garde républicaine, c'était vraiment pas mal. Donc, et puis un petit clin d'œil aussi sur ceux qui ont porté la flamme, un petit clin d'œil à Félicia Ballanger. Voilà, donc la Calédonie a été quand même représentée, je trouve.
Presque jusqu'au bout.
Presque jusqu'au bout, et ça fait plaisir en fait de voir ça à la télé, et de voir des copains aussi qui portent la flamme.
Donc, Pierre-Jean voilà.
Ouais, moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé que dans le cadre d'une organisation, d'une cérémonie comme ça, d'ouverture de jeu, c'est assez original, et je pense qu'ils ont relevé un défi, alors même si on entend là actuellement des... ça fait partie malheureusement un peu de ce qui se passe en France, mais ouais, délocaliser une cérémonie à l'extérieur, faire vivre un patrimoine français comme ça dans le cadre d'un événement mondial, Moi, j'ai trouvé ça, je dirais, avec beaucoup d'émotion. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder, en tout cas. Et voilà, en tout cas, je voyais les athlètes dans les différents bateaux qui étaient totalement ravis, même s'ils se sont fait saucer.
ça, c'est le point noir de la soirée, effectivement.
On les voyait quand même assez heureux de découvrir une cérémonie comme ça dans les bateaux. J'ai l'impression qu'ils étaient, c'était les bateaux mouches. Ils étaient, voilà, non, moi, j'ai trouvé ça magnifique, super original. En tout cas, une belle ode, je dirais, à la diversité qui pouvait être proposée, culturelle, artistique, voilà, les valeurs, je dirais, du sport qu'on retrouve, hein, un peu là, dans le cadre d'une cérémonie des Jeux, en tout cas. Voilà, moi, ça m'a fait vibrer, en tout cas.
Jérôme Crapati ?
Alors, moi, je l'ai trouvé, comme cérémonie, je l'ai trouvé audacieuse, je l'ai trouvé unique, je l'ai trouvé assez majestueuse, et j'ai surtout trouvé que, finalement, le sport peut rassembler. Tout le monde peut rassembler toutes les communautés autour d'un événement qui s'étend sur 6 kilomètres avec plus de 320 000 spectateurs. C'est 7 000 athlètes. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même assez fabuleux. Et ça avait été travaillé par Tony Estanguet et toute son équipe. Et ils ont essayé, comme ils disent, de donner la meilleure version d'eux-mêmes avec, certes, la pluie. Mais ils ont été, je trouve, très, très forts sur tout ce qui est l'alternance entre la modernité et l'histoire de France. Et je trouve que ces différents tableaux qui nous étaient exposés étaient intéressants.
Yann Bidulier.
Alors, je vais être complètement en phase avec, avec ce que dit Jérôme. C'est quelque chose qui dénote d'un stade fermé. Aujourd'hui, on est très audacieux. La France est audacieuse d'avoir proposé cette cérémonie d'ouverture. Je vais faire un petit clin d'œil, moi, par rapport au Relais de la Flamme. On parlait des générations, on parlait des artistes, on parlait des tableaux historiques et modernes. Et lorsqu'on a un Relais de Flamme avec Charles Coste, qui a 100 ans, et les autres athlètes, aussi bien encore en activité que retraités, et on a en effet eu la chance de pouvoir avoir des amis, c'était quelque chose de très touchant et très émouvant.
Avec des athlètes paralympiques, on peut le signaler aussi.
C'est pour ça, voilà. Oui, donc complètement. C'est l'une des premières, je pense, où on a cette inclusion, mais totale.
Absolument. On va terminer cette émission avec vos coups de cœur. Allez, on va commencer par les femmes, c'est normal. Olivia ?
Allez, petit coup de cœur, moi, ça serait médaille pour Emma Terebo et Yolaine Niengo.
Allez.
Voilà.
Diane ?
Moi, c'est de pouvoir vibrer aux couleurs de la France durant ces 15 jours et que ça soit vraiment une vraie fête du sport et qu'on arrive justement à vibrer en Nouvelle-Calédonie.
Ça sera plutôt dans ces 15 nuits même.
Oui, parce que le sport à la télé nous fait du bien et je pense qu'on en a besoin en ce moment.
Oui, Pierre-Jean ?
Ah ben moi, je vais rejoindre tout le monde. C'est un coup de cœur à tous nos athlètes calédoniens là, qui sont donc engagés, sans oublier nos athlètes paralympiques qui vont y aller. Donc on va vivre un petit mois de sport olympique, en tout cas, voilà. Moi, en tout cas, c'est ça, c'est mon coup de cœur avec eux.
Jérôme Crapati ?
Eh bien, un coup de cœur pour Yolaine et en lui souhaitant une médaille, mais aussi aux 7 autres athlètes calédoniens. Donc, 8 athlètes calédoniens représentent la Nouvelle-Calédonie dans ces Jeux-là. Et leur succès, leur souhaiter plein succès, mais également aussi des athlètes au niveau paralympique.
Voilà, merci à tous les quatre de votre collaboration ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.